tout de suite l'émission Dans le Rétro. Dans le Rétro, c'est l'émission qui passe au crible l'histoire de notre territoire. Présentée par Patrick Grosjean, en partenariat avec l'association Les Amis du Blanc et ses environs. Sur Dynamo, l'histoire c'est de l'émission Dans le Rétro.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Pour cette quatrième émission de Dans le Rétro, Chantal Colisac se propose de nous raconter le parcours de vie de Jean Foursac, un parcours très singulier, un résistant issu de Mézières-en-Brenne, arrêté et déporté en Allemagne. Comme bien souvent son destin s'est télescopé avec la grande histoire, lors d'un épisode dramatique assez peu connu qui s'est déroulé à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale.
Bonjour Patrick et salutations aux auditrices et auditeurs de Radio Dynamo. Entrons dans le vif du sujet avec l'acte de naissance de Jean, sur lequel il est indiqué Jean, Aimé, Arthur. Un second prénom prémonitoire, comme un hymne à la vie, qu'il l'a aimé par trois fois dans un destin surprenant que je me propose de vous raconter. Jean est né dans le quartier Saint-Étienne à Tours le 23 mai 1914, deux mois avant le début de la Grande Guerre. Ses parents exercent les métiers d'employé de commerce pour Arthur, son père, et couturière pour sa mère Marie-Louise, en prémisse de leur future installation à Mézières-en-Brenne. Pour des raisons ignorées, il crée à Mézières un commerce de rouennerie au 16 rue de l'Ouest, qui aujourd'hui est un bureau d'une compagnie d'assurance, à partir de 1921 et peut-être même quelques années auparavant.
Ah oui, et la rouennerie, qu'est-ce que c'est? Peux-tu préciser aux éditeurs ce que l'on y vendait?
Oui, bien entendu. À l'origine, il s'agit d'un tissu à dominante rose, rouge ou violette, fabriqué à Rouen, avec une méthode de tissage particulière, d'où le nom Rouen-Rouennerie, un peu compliqué à prononcer. Par extension, au début du XXe siècle, c'est devenu le lieu dans lequel on vend du tissu, de la toile et puis au final des tissus d'ameublement. Pour reprendre l'histoire de Jean, donc fils unique, il est élève dans la toute nouvelle école laïque de Mézières. Excellent élève, il obtient haut la main son certificat d'études en 1926 et, premier du canton, il se voit même offrir une bicyclette Dilecta, alors fabriquée au Blanc par les célèbres établissements Chichery.
Oui.
Après la poursuite de ses études au Blanc et au lycée de Châteauroux, une formation en préparateur en pharmacie conduit Jean au fort de Vincennes, dans le Val-de-Marne, comme militaire nommé élève officier d'administration de réserve du service de santé, issu de la 22e section d'infirmiers militaires, qu'il a intégré à l'âge de 20 ans. Fin 1937, après avoir été affecté à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé, tout à côté de Vincennes, il est transféré de l'armée de terre à celle de l'air, avec le grade de sous-lieutenant, non pas comme personnel de santé, mais en tant qu'officier des services administratifs de l'air. Démobilisé en août 1940 de la probable base aérienne 745 d'Aulnat, toute proche de Clermont-Ferrand, Jean devient alors, pendant quelques mois, inspecteur du centre de démobiliser de zones interdites, situé dans le quartier Gribeauval. Il s'agissait de prendre en charge les nombreux chômeurs qui ne pouvaient rentrer dans leur région d'origine annexée alors par l'armée allemande. Le 21 février 1941, en pleine guerre, en la mairie d'Azel-Ferron, Marie-Madeleine Boitard devient Madame Foursac. Claude, leur fils unique, naîtra fin 1943.
Et en sus de son mariage, cette année 1941 va être déterminante dans la vie de Jean.
Absolument, puisqu'à partir du 25 août de la même année, et pour trois ans environ, Jean est officiellement employé comme civil, chef du magasin atelier au service des télécommunications et de la signalisation. Un poste stratégique qui marque le début de son entrée en résistance sans appartenir à aucune des organisations qui se mettaient alors en place sur tout le territoire. Son premier acte de bravoure a consisté à sortir et à camoufler du matériel technique pouvant être utilisé par des résistants, en dépit des nombreux contrôles effectués par des officiers allemands de la commission d'armistice stationnée à Royat dans le Puy-de-Dôme. Le jeune homme réitéra l'exercice en novembre 1942 en faisant quitter de l'entrepôt qu'il dirigeait des postes émetteurs, des groupes électrogènes et des lampes au nez et à la barbe de l'officier supérieur allemand installé dans le bureau attenant au sien et sous les yeux du poste de garde de la Luftwaffe.
Gonflé.
Gonflé, oui. Par ailleurs, les matériels considérés par l'occupant comme prise de guerre se voyaient systématiquement sabotés en catimini par des Français.
Encore plus gonflé.
Jean finit par rejoindre en février 43 le réseau STN sous les ordres d'Alexandre Courson de la Villeneuve. Il est chargé de le structurer. Les arrestations massives opérées par la Gestapo le 1er juillet 44 anéantiront cette organisation. Ayant des doutes sur l'activité souterraine de Jean, la milice l'arrête dans un premier temps le 3 juin de la même année. Il se disculpe au cours de son interrogatoire et est relâché. Mais pas pour longtemps. Un mois plus tard, c'est la Gestapo qui vient le chercher dans son bureau. L'étau se resserre avec 4 chefs d'accusation. La mise en place, la mise en place d'un réseau de résistance, sabotage du réseau télégraphique, camouflage de matériel, participation à des parachutages. Et là, ça va se gâter. En dépit d'un long interrogatoire musclé, Jean garde le silence. Il est jeté dans une prison militaire qu'il quitte le 18 juillet pour le camp de Royallieu, à Compiègne, dans l'Oise. L'un des 3 principaux camps d'internement nazis sur le sol français, qui verra passer 54 000 résistants, juifs, militants syndicaux et politiques. Un matricule lui est attribué, le 43 568.
Et ce, avant sa déportation. Mais avant d'aller plus loin avec l'épisode plus sombre de cette histoire de vie, je vous invite à écouter le chant des marais ou chant des déportés, interprété par le chœur de Saint-Cyr.
Curieusement, même si ce chant est une adaptation d'une mélodie allemande composée en 1933, chaque déporté le connaissait, dont certainement Jean Foursac, qui partit dans la soirée du 28 juillet pour le camp de concentration de Neuengamme. 1652 hommes sont entassés dans des fourgons à bestiaux, sans eau ni nourriture. Le pénible voyage de 850 km sera ralenti par les bombardements alliés et les tentatives d'évasion, qui se solderont par 4 tués, transportés dans le train avec les vivants jusqu'au camp. Bien que le débarquement ait eu lieu depuis 2 mois, les autorités du Reich poursuivent les déportations pour vider ce centre majeur qu'est Royallieu, qui était encore en zone occupée. Ce convoi a été l'avant-dernier précédant la fin des hostilités. Enfin arrivés le 31 juillet, les déportés sont mis en quarantaine et triés. Main-d'œuvre de remplacement bon marché, ils alimentent en permanence l'économie germanique et soutiennent sa production de guerre. C'est ainsi que les SS avaient organisé quelques 80 commandos extérieurs dans un rayon de 200 km autour de Neuengamme. Les détenus travaillaient à la fabrication de munitions, de produits chimiques, d'autres assuraient les déblaiements après les bombardements, réparaient les voies de communication, enfin voilà, faisaient un petit peu tout ce travail. Jeune, en bonne condition physique, Jean, matricule 40339, se voit transféré dès le 16 août au commando de la Kriegsmarine à Brême-Osterhort pour débuter, comme 1000 autres détenus, dont la moitié de Français, un travail de forçat dont on devine les terribles conditions. Sa fiche, conservée aux archives allemandes de Bad Arolsen, indique, je cite, « possession, une montre blanche avec bracelet en cuir, une chevalière jaune, une petite chaîne jaune, une alliance blanche ».
Ouais, pas grand-chose. Mais ce n'est pas facile sur les ondes, mais peux-tu situer où se trouvaient Neuengamme et Brême?
Alors, Neuengamme est situé dans le nord de l'Allemagne, au sud-est de la ville de Hambourg, et grosso modo à 200 km de la frontière danoise. Brême est un peu plus au sud, et pourquoi je disais de la frontière danoise, c'est qu'en plein hiver, on le verra tout à l'heure, il y fait très 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 froid. Coûte que coûte, nécessitant un important travail manuel, l'immense bunker de sous-marin Hornis, on pourrait dire que celui de Bordeaux en France y ressemble étrangement, donc se devait d'être construit. Peu importait le nombre quotidien de décès de ce sous-personnel, ils étaient aussitôt remplacés par de nouveaux venus. Chaque matin, comme l'indique un exceptionnel microfilm trouvé aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, les contremaîtres dressaient les listes des numéros matricules des détenus répartis par groupe de travail. Aucun nom, juste des chiffres déshumanisés. Sur place, la lecture un peu difficile de ce document m'a personnellement glacé complètement et confirme bien l'atrocité de cette guerre et de toutes les suivantes. Régulièrement et violemment frappé, entre autres d'un coup de crosse à la tête, la santé de Jean se détériore, accentuée par des rations alimentaires en forte diminution, des conditions d'hygiène déplorables et, on en parlait tout à l'heure, un hiver 44-45 particulièrement rigoureux. Il en conservera une surdité partielle, la perte de 16 dents et de nombreux troubles qui l'accompagneront le reste de sa vie. Les multiples punitions humiliantes des capots, pour beaucoup d'anciens criminels allemands, sapaient le moral des hommes, accentuant les difficultés de survivre, comme en témoigne Eugène Meurot, je cite, « Tout ce qu'il pouvait trouver de plus inhumain, il le faisait, afin de nous démoraliser, car lorsqu'il n'y avait plus de morale, c'était la mort. » Ne pouvant lutter face à de telles conditions, seuls 180 Français survivront sur les 530 employés dans ce commando. Retour au camp de Neuengamme le 15 avril 1945, après l'arrêt du chantier provoqué par les bombardements alliés qui avançaient. Depuis le débarquement du 6 juin 1944, l'avancée a été difficile, mais elle était de plus en plus présente et rapide. L'évacuation de ce camp devenait inéluctable et devait être rapidement organisée.
Oui, mais alors que faire de plus de 10 000 hommes dans un triste état?
Alors, il y en a un qui a eu une idée de génie, entre guillemets, c'est le comte Bassewitzber, chef des SS et de la police à Hambourg, et le Gauleiter Kaufmann, commissaire du Reich pour l'administration maritime. Ils ont eu l'idée de rassembler les détenus sur des navires réquisitionnés dans le but inavoué de les torpiller par la suite pour respecter les ordres de Himmler qui avait édicté qu'aucun détenu ne doit tomber vivant entre les mains de l'ennemi.
Horrible.
Horrible. C'est ainsi qu'environ 9000 prisonniers valides sont transportés par une quinzaine de trains vers les quais maritimes de Lübeck, donc au nord enfin à côté de Hambourg et au nord de Neuengamme, entre le 19 et le 26 avril 1945, après avoir reçu chacun un colis de la Croix-Rouge américaine qui avait été conservé par les SS jusque-là. Trois navires confisqués, abordant le pavillon rouge à Croix-Gammée, mouillent à Neustadt, au nord de Lübeck. Donc ces navires portent les noms de Cap Arcona, l'Athènes et le Tilbeck. Au fur et à mesure de l'arrivée des trains, les hommes sont entassés dans les cales des bateaux. On empile les morts pour faire de la place. La faim, la soif, le manque de soins, l'absence totale d'hygiène sont leur lot quotidien pendant 2 semaines. Jean est transféré sur le bateau Athènes, un navire allemand de 1936, sous la mainmise de la Kriegsmarine. Menaçant d'être fusillé, Fritz Nommann, le capitaine, est sommé d'embarquer 2300 prisonniers et 280 SS et capots pour les amener sur le cap Arcona, positionné à quelques kilomètres, mais qui, lui, ne pouvait plus bouger puisqu'il n'avait plus de turbine. En quelques jours, ce paquebot initialement de luxe sera chargé de 6500 prisonniers de guerre, selon l'expression allemande, enfermés dans ses profondeurs, où croupissaient à 16 dans une simple cabine, toujours sans eau, sans vivres et sans toilettes, ses prisonniers. Les 500 gardiens, eux, se sont octroyés les suites luxueuses des ponts supérieurs. Le 30, face à cet univers concentrationnaire flottant, surchargé et en totale déroute, le capitaine de l'Athènes revient chercher 2000 passagers francophones qui ignorent leur nouvelle destinée. Le bateau jette l'ancre en baie de Neustadt et n'en bougera plus, et heureusement. Il devient évident que le cap Arkona, dont les turbines sont hors d'usage et méticuleusement vidées de toutes les bouées de secours, les gilets de sauvetage et tout ce qui aurait pu flotter, il est destiné à être coulé avec sa cargaison humaine.
Horrible, toujours. Et parallèlement, les forces alliées avancent rapidement. Elles prennent en tenaille les belligérants, dont le chef, Hitler, s'est suicidé le 30 avril, annonçant la toute fin du conflit. Et même des chars britanniques entrent dans la ville de Lübeck le 3 mai.
Oui, on est vraiment, on va pas dire à la libération, mais on est vraiment à quelques jours de la libération. Et jusqu'au tout dernier moment, les SS allemands feront tout pour essayer de se débarrasser de ces prisonniers. Mais ça prendra une autre tournure. Dans la nuit précédente, tous les bâtiments de guerre allemands avaient disparu de la baie, hormis ces trois navires de transport, repérés le matin même par un avion de reconnaissance anglais. Parce que voilà, les alliés avançaient et les avions de reconnaissance reconnaissaient tout simplement. Son vol à 10 000 pieds, donc environ 3 km, ne lui a pas permis de repérer distinctement l'identité des personnes à bord. Les prisonniers faisaient des grands gestes des mains, les soldats SS tiraient sur l'appareil. À 3 km, je ne vois pas comment ils auraient pu l'atteindre. Mais enfin bon, les drapeaux nazis claquaient au vent. Enfin bon, on était quand même en pleine fin de guerre. Pour des raisons encore floues à ce jour et sujettes à controverse, vers 14h30, une escadrille anglaise de chasseurs-bombardiers, dirigée par Sir Arthur Cunningham, fonça sur le Tilbeck et le cap Arkona et lâcha des bombes de 500 livres, provoquant en plusieurs endroits des incendies. Une panique indescriptible s'ensuivit. Les prisonniers se sont jetés dans une eau à 7 degrés de la mer Baltique. D'autres tentèrent de s'accrocher à ce qui flottait. Les derniers sont mitraillés par des canons de 20 mm des chasseurs anglais qui réalisent plusieurs passages au ras de l'eau et par des mitrailleuses ennemies situées sur le pont. Quelques-uns seront sauvés par des pêcheurs allemands venus à leur secours et qui auront réussi à atteindre la côte. La majorité des détenus, jetés dans les cales, mourra asphyxiée, faute d'avoir pu ouvrir les portes. Le Tilbeck sombre en 20 minutes avec 2800 déportés à bord et parmi les 50 survivants, il n'y aura que 4 Français connus à ce jour. Quant au cap Arkona, surnommé le Titanic nazi, il se couche sur le flanc et y demeure par manque de profondeur. Quelques prisonniers sortent par les hublots et tentent de rejoindre la rive à 3 km. Toute cette affaire fait qu'en moins de 12 heures, cet abominable drame occulté par l'histoire pendant plus de 40 ans fit 7000 victimes de toutes nationalités, dont plus de 4000 sur le cap Arkona.
Eh oui, ce dramatique épisode est qualifié de plus grande catastrophe maritime de tous les temps, plus que le Titanic. La mort de déportés tués par erreur par l'aviation anglaise au moment qui aurait dû être celui de la libération, c'est totalement horrible. Un autre résistant de Braine, Jean de Lalaise, instituteur optère, bien connu pour avoir organisé les premières réceptions de parachutage, est mort dans cette même tragédie. De même, un résistant de Limoges sur lequel j'ai eu à faire des recherches, Jules Dillon Seger, qui, bien que champion de natation, n'a pas pu échapper à la mort dans les eaux glaciales de la Baltique. Quant à Jean Foursac, véritable miraculé, sait-on comment il a pu en réchapper exceptionnellement ?
Nous l'ignorons. Faisait-il partie des 1998 personnes installées sur l'Athènes, donc le dernier bateau amarré dans le port de Neustadt avant l'arrivée des avions anglais, et qui a évité un massacre après que tout simplement un matelot ait hissé un drapeau blanc. Parce que ça, les Anglais quand même l'ont vu, et sur un drapeau blanc, on ne tirait pas, on ne faisait rien. Ou faisait-il partie des 12 Français miraculés du cap Arkona ? On ne sait pas. Il a rejoint, a-t-il écrit en 1948, les lignes anglaises sous le feu des mitrailleuses allemandes. C'est tout ce qu'il dit. Il n'a pas fourni d'autres précisions. J'ai interrogé récemment le comité international de la Croix-Rouge qui n'a pas pu me donner plus d'explications, faute d'archives conservées, puisqu'à l'époque, la Croix-Rouge suédoise s'était occupée de ces personnes-là, les avait rapatriées en France. Donc c'est avec un amaigrissement de 18 kilos que l'enfant de Mézières arrive au centre de rapatriement de Lille le 21 mai 1945. Donc à l'époque, c'était la Croix-Rouge qui avait assuré son transfert. Il reçoit des vêtements, 8000 francs, une carte de rapatriement faisant office de carte d'identité, parce qu'évidemment il n'avait plus rien, et il revient en Braine chez ses parents. Il y demeurera alité 45 jours et ne sera examiné par un médecin du centre départemental des déportés de l'Indre que 2 mois plus tard, tellement il était faible. Après avoir repris des forces, Jean poursuivra sa carrière militaire en région parisienne. Nous le retrouvons lieutenant en 1947 dans un entrepôt de l'armée de l'air à Saint-Cyr-l'École, situé derrière le château de Versailles. Il sera par la suite nommé commandant, puis colonel. De nombreuses médailles souligneront ses multiples actes héroïques et de survie, parmi lesquels la Légion d'honneur, la Croix de guerre avec palme, la médaille de la Résistance française, la Croix de combattant volontaire de la Résistance et, pour son magnifique exemple de courage et d'esprit français, a précisé le président de la République, Vincent Auriol. Dès la fin de la guerre, Jean s'installe à Paris, ne conservant dans l'Indre qu'une résidence secondaire à Azel-Ferron.
Revenons cependant en Brenne.
Oui, alors, ses parents cesseront leur activité de commerçant à Mézières entre 1953 et 1955. Leur fidèle vendeur, Thilo le Jeune, bien connu des habitants, les a assistés pendant de nombreuses années et jusqu'à leur retraite. Les Masseriens âgés se souviennent encore de l'émouvante conférence donnée conjointement par messieurs Louis Balzan, déporté à Mauthausen, Marcel Lemoine, déporté à Buchenwald, et Jean Foursac, déporté à Neuengamme, qui a eu lieu le 29 janvier 1971 dans la salle de cinéma de l'époque, à Mézières. Organisée par la Maison des Jeunes de la Brenne, cette manifestation, qui rassembla un très nombreux public, avait pour but d'écouter les témoignages directs des survivants pour éviter l'oubli de cette période. Parallèlement, une exposition organisée par la Fédération nationale des déportés et internés résistants patriotes, dont Jean était le président pour l'Île-de-France, a permis de découvrir des documents et des photos utiles pour s'imprégner du calvaire subi quotidiennement dans les camps de la mort. Jean Foursac, décédé le 27 juin 1976 à l'âge de 63 ans, est inhumé dans le cimetière d'Azel-Ferron. La mention « Mort pour la France » est inscrite sur sa tombe.
Cependant, la commune de Mézières n'a pas oublié sa mémoire.
Et non, et heureusement, en effet, à la fin des années 1970, le ministère de l'Éducation nationale demande qu'un nom soit donné à chaque école en France. La décision en revient bien évidemment au conseil municipal. À l'époque, l'équipe de Jean Boussard choisit celui de Jean Foursac pour l'école maternelle, en hommage donc à ce valeureux combattant qu'il a été, et pour son exemplarité patriotique. L'école primaire sera nommée Joseph Thibault, du nom de l'érudit et collectionneur passionné, propriétaire de Les Beaupins bien connu. Précisons qu'au cimetière du Père-Lachaise à Paris, une stèle érigée à la mémoire des martyrs du camp de concentration de Neuengamme rappelle, je cite, « qu'ils sont morts pour que nous vivions libres ». Un fragment du cap Arcona est scellé à son pied.
Émouvant. Tu disais Léon Boussard, Jean Boussard, c'est Léon Boussard.
Léon,
je crois,
j'ai dit oui. Jean Boussard, pardon, ouais. Léon Boussard.
Oui, c'est pas grave.
Oui, c'était Léon, son prénom.
Et bien, concluons.
Alors, pour conclure, miraculeusement et grâce à une volonté hors norme, Jean Foursac a survécu à la fois aux affres de la guerre, au terrible camp de la mort et à la plus grande catastrophe de l'histoire maritime de tous les temps, dont personne ne fut jamais tenu responsable. Oui, on peut dire, et c'était son deuxième prénom et c'était mon introduction, que la vie l'a vraiment aimé.
Oui. Et vous pourrez retrouver toute cette histoire et les photos qui l'accompagnent dans le dernier numéro de la revue Au fil du temps, la revue de l'Association des Amis du Blanc et de sa région, disponible dans plusieurs dépôts au Blanc, notamment à la librairie Cousin Perrin, et puis aussi à Cœur de Brenne, à Mézières-en-Brenne.
Cette chronique s'achève aujourd'hui avec l'écoute du chant des partisans. Nous ne pouvions guère faire autrement après tous ces actes héroïques de résistance, oui. Interprétés par les Stentors. La musique initiale est d'Anna Marly et les paroles de Joseph Kessel et Maurice Druon. À bientôt.
Au revoir.
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. tueur à la balle et au couteau que tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.